Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode spécial Podcaston. Le Podcaston est une initiative qui permet aux podcasteurs de proposer et de mettre en avant une cause caritative de leur choix, de pouvoir donner l'occasion à ces institutions qui œuvrent sur le terrain une meilleure visibilité et une sensibilisation plus accrue de la part du grand public. Pour ma part, j'ai choisi la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie. Ayant une petite fille épileptique, ce choix était une évidence. On estime que 600 000 personnes souffrent d'épilepsie en France. Près de la moitié seraient âgées de moins de 20 ans. L'épilepsie effraie et souffre d'idées reçues. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Emmanuelle Rouberti, directrice générale de la Fondation. Avec elle, nous allons pouvoir comprendre les mécanismes et les enjeux autour de l'épilepsie. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Sarah.
Bienvenue sur mon postpartum. Je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui après toute cette ces déboires.
Bon, bah écoutez, merci à vous de m'avoir proposé de participer, puis bravo pour tout ce que vous faites.
C'est gentil, merci. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait un épisode vraiment particulier qui sort un petit peu des sujets que je traite habituellement. On va parler d'épilepsie. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous laisser vous présenter.
Alors, donc, je m'appelle Emmanuelle Rouberti et je suis directrice générale de la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie depuis bientôt 15 ans.
Du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'est l'épilepsie, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment, parce que moi j'ai appris très récemment qu'il y avait des épilepsies. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit topo pour les auditeurs qui ne seraient pas sensibilisés à cette question?
Bien sûr. Alors déjà, l'épilepsie, c'est effectivement, il faut parler des épilepsies, je vais y revenir, mais c'est déjà la deuxième maladie neurologique après la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui touche 650 000 patients, donc 1% de la population. Et en fait, alors tout le monde a l'image de l'épilepsie comme la crise tonico-clonique généralisée. En fait, il y a plein de symptômes différents. Donc, il peut y avoir cette fameuse crise impressionnante, mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des absences. La personne est déconnectée de la réalité pendant un moment, des mâchonnements, des tressautements. Et en fait, ces différents symptômes de l'épilepsie sont liés à différentes formes d'épilepsie, justement. Et les épilepsies, qu'est-ce que c'est? Ce sont des orages, des dysfonctionnements électriques dans le cerveau, c'est-à-dire qu'en essayant d'être très concise et claire, ce qui fait qu'on parle, qu'on bouge, voilà, qu'on a des interactions, c'est le fait que dans notre cerveau, on a plusieurs milliards de neurones qui communiquent les uns avec les autres. Ils communiquent via un circuit électrique. La crise d'épilepsie et le fait de souffrir de la maladie d'épilepsie, c'est le fait qu'il y ait plus ou moins fréquemment, une surcharge électrique, une mauvaise communication électrique entre ces neurones qui fait que soit au niveau d'une zone précise du cerveau, soit dans tout le cerveau, il y a ce dysfonctionnement électrique qui se manifeste par des crises. Et donc effectivement, on dit qu'il y a entre 60 et 80 formes d'épilepsie, mais les neurologues et épileptologues disent même que finalement, il y a autant de formes d'épilepsie que de patients épileptiques parce que voilà, il y a
Bien
tout un
sûr.
tas d'autres choses qui vont jouer et qui vont faire que voilà, on ne sera jamais face à un type unique d'épilepsie.
Et vous, en tant que directrice de la fondation et même de la fondation en elle-même, quel est votre rôle au quotidien pour apporter un soutien justement aux personnes qui sont touchées par l'épilepsie?
La Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie, comme son nom ne l'indique pas, certes, on s'occupe de recherche et je vais y revenir dans un moment, mais on a en fait quatre missions statutaires. Donc, première mission, financer des projets de recherche, c'est-à-dire que tous les ans, en fonction des fonds que nous avons levés, on va lancer des appels à projets de recherche. Je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard, sur des thématiques. Les chercheurs répondent et les projets sont examinés par des experts de notre conseil scientifique et des experts extérieurs qui vont dire au conseil d'administration, voilà, dans chaque catégorie, tel projet, le meilleur projet, c'est tel projet, et à ce moment-là, on finance. Ça, c'est le volet financement de la recherche. Ensuite, au quotidien et en complémentarité avec les associations de patients, on va donner de l'information générale sur l'épilepsie aux patients, les diriger vers les services d'épileptologie, donc services vraiment spécialisés là-dessus, leur mettre à disposition, notamment sur notre site, de la documentation, les orienter si besoin, les écouter aussi. Donc ça, c'est le volet accompagnement des patients. Troisième volet, on fait à chaque fois que c'est possible de la communication, de l'information, de la sensibilisation sur l'épilepsie, puisqu'une des difficultés, c'est effectivement que l'épilepsie est méconnue, qu'il y a encore beaucoup de préjugés, qu'en général, on ne sait même pas que c'est une maladie neurologique. Donc,
Ça fait peur, c'est vrai que ça impressionne quand on a l'impression que c'est quelque chose un peu à part.
Parce que la crise d'épilepsie généralisée impressionne, mais encore une fois, c'est vraiment loin d'être la seule manifestation, enfin la manifestation principale des crises d'épilepsie. Donc par rapport à ça, à chaque fois que c'est possible, qu'on en a les moyens, on fait des campagnes d'information, on fait régulièrement des événements qui servent à la fois à informer sur une thématique sur l'épilepsie, par exemple un colloque grand public, on fait bah, typiquement une émission comme celle d'aujourd'hui, on fait des informations sensibilisation dans les entreprises. Voilà, ce troisième volet, c'est vraiment un volet communication sur les maladies pour lutter contre la méconnaissance et contre les préjugés. Et quatrième volet, on agit auprès des pouvoirs publics. En lien pareil avec les autres acteurs de l'épilepsie pour permettre une meilleure prise en charge, l'organisation d'un parcours de soins. On a été notamment à la manœuvre dans le cadre pour arriver aux récentes recommandations de la Haute Autorité de Santé sur à la fois le parcours de soins et la prise en charge du patient.
Là, on parle de recherche, effectivement, c'est ce qui apparaît dans la présentation de la Fondation. Comment la recherche médicale sur l'épilepsie a-t-elle évolué au fil des années? Quelles sont les avancées qui ont été réalisées dans le diagnostic? Parce qu'on en parle, c'est méconnu, il y a beaucoup de fantasmes, d'idées reçues, mais j'imagine qu'il y a quand même une évolution. Est-ce que vous, depuis que vous occupez ce poste-là, vous avez pu voir tout ça, en fait, toute cette évolution?
Oui, alors, bon, encore une fois, moi, je ne suis pas chercheuse, hein, je ne suis pas
Bien
spécialiste.
sûr.
Chercheur, vous comprendrez mieux, mais disons que les principales avancées qu'il y a eu dans le domaine de la recherche, enfin, de la connaissance, il y a eu pas mal d'avancées sur la génétique des épilepsies. Beaucoup d'avancées aussi en termes d'imagerie, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de systèmes plus complexes qui permettent de mieux localiser la zone d'où partent les crises et donc d'essayer de mieux l'enrayer. Et puis en termes de recherche médicale pure, ça c'est un peu plus éloigné de nous, il y a aussi eu il y a beaucoup de traitements, mais malheureusement, on n'est pour l'instant pas arrivé en fait, il y a des traitements qui permettent d'éviter les crises. Quand la personne n'est pas pharmacorésistante, il faut savoir que un quart des épileptiques sont pharmacorésistants, résistent à tous les traitements, mais on n'a pas encore trouvé le moyen de faire que l'épilepsie n'apparaisse pas, que ce soit les recherches des années à venir. Et puis, ce qui se développe beaucoup, bah, c'est toute l'utilisation en fait de l'intelligence artificielle dans la recherche, alors dans la recherche pure ou dans la recherche alliée à des startups. Par exemple, il y a des projets qui permettent d'essayer d'avancer sur la détection des crises, le fait qu'on puisse savoir à l'avance que les crises vont arriver et ne serait-ce que pour se mettre en sécurité. Il y a notamment à Marseille, où il y a une grosse équipe de recherche sur l'épilepsie, le travail sur un cerveau virtuel, là aussi pour connaître plus de choses, pour mieux comprendre. Et puis, il y a tout ce qui est recherche sur le reste, c'est-à-dire indépendamment des crises, le fait de comprendre pourquoi la maladie arrive, le fait d'essayer d'enrayer les crises. Il y a tout ce qui est essayer de mieux comprendre pour mieux améliorer la vie autour, tout ce qui concerne les comorbidités, tout ce qui concerne le parcours de soins. Là, on a financé notamment un projet sur bah, l'impact de l'épilepsie sur... et la qualité du parcours de soins des enfants, par exemple. Donc, il y a tout ce volet-là aussi où de plus en plus des sujets un petit peu périphériques entrent aussi, en tout cas pour nous, dans le champ des recherches de confidence. Et typiquement, là, sur l'appel à projet qui est en cours, hein, qu'on a lancé en février, on a un appel à projet sur soigner ou comprendre. Donc, ce qui veut dire qu'on financera un ou deux projets qui montrent clairement que ces recherches vont permettre ou de mieux soigner ou de mieux comprendre l'épilepsie. Et on financera un ou deux autres projets pareils sur la thématique épilepsie et société, typiquement sur ce que je venais de dire, pour mieux comprendre voilà, les impacts de l'épilepsie dans la vie quotidienne et comment c'est géré dans la société et comment on peut améliorer tout ça aussi.
Et vous proposez un accompagnement pour les aidants, parce que c'est vrai que notamment, j'avais lu que plus de la moitié des épileptiques, en tout cas reconnus en France, avaient moins de 20 ans. Donc j'imagine qu'ils sont dans une cellule familiale et que ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a eu une sensibilisation, un accompagnement pour justement aider les parents, les grands-parents, enfin bref, peu importe, les gens qui gravitent autour d'une personne épileptique?
Alors, l'accompagnement, à la base, c'est moins dans nos missions à nous. Par contre, effectivement, on donne déjà cette information. On va orienter vers des services qui peuvent aider. Toute cette question de l'accompagnement au diagnostic, de l'accompagnement sur le reste, fait partie, hein, des points qui ont été étudiés par la CNAM et qui sont pointés en fait dans les recommandations de parcours de soins de l'HAS. Et puis, typiquement, nous, on a participé avec les autres associations à l'élaboration d'un livret qui s'appelle Accueillir et accompagner un élève atteint d'épilepsie à l'école. Là, on est en train de travailler sur de la sensibilisation après l'école, justement, après le baccalauréat, dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, on essaie de proposer ça, de mieux faire connaître l'épilepsie pour que justement l'aidant soit moins désemparé. Évidemment, on répond au téléphone, on renvoie sur un groupe privé d'échange entre aidants, mais là, on est plus sur le volet accompagnement. Je pense que c'est plus, enfin, c'est pas je pense, c'est de fait statutairement, c'est plus dans le rôle des associations de patients. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très compliqué parce que c'est pour ça que d'ailleurs que le président fondateur de la fondation avait créé la fondation, parce qu'au moment où tombe le diagnostic, on est extrêmement démunis en fait, et on
Bien
a
sûr.
besoin de chercher de l'information. Là, on est là pour ça, pour le coup, d'aller chercher une information de base déjà qui explique ce que c'est et ce qui va se passer. Et où trouver l'information.
Pour rebondir un petit peu sur ça, quels sont aussi les principaux obstacles et défis que vous rencontrez, notamment dans la recherche, au niveau financier, réglementaire, scientifique, enfin voilà. Qu'est-ce qui vous limite au quotidien pour faire évoluer toute cette sensibilisation autour de l'épilepsie?
Alors, très clairement, très clairement, c'est l'argent, parce que nous, on est vraiment une fondation qui est uniquement financée par les dons des patients et de leurs familles. Enfin, par les dons du grand public, mais de
Bien sûr.
fait, les dons sur l'épilepsie, les dons sont ceux des patients et de leurs familles. Donc, ce qui est limitant pour nous, c'est ça, en fait. C'est que contrairement à d'autres structures sur d'autres maladies qui vont avoir des financements publics ou des financements d'entreprise ou qui vont être sur des thématiques, entre guillemets, à la mode qui permettent de collecter beaucoup de fonds, nous, on n'a pas ça. Et d'ailleurs, on nous dit souvent, pourquoi vous ne faites pas des grandes campagnes à la télévision? Parce qu'on n'a pas les moyens. Pourquoi est-ce qu'il y a un téléthon, hein, etc. et tout? Parce que l'épilepsie intéresse moins. Et alors, l'épilepsie intéresse moins aussi parce que, comme il y a 2/3 des patients qui sont contrôlés, on n'est pas sur une maladie qui. Enfin, à la fois la crise fait peur, à la fois c'est méconnu. Et en même temps, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser parce que les gens se sentent moins concernés, en fait. Donc,
Bien sûr.
c'est.
Vous voulez dire
Et
qu'à partir du moment où on a réussi à maîtriser les crises au quotidien, vu qu'il n'y a pas forcément un impact visible peut-être de tous, alors ça reste relégué dans un coin.
oui, je pense. C'est-à-dire que je pense que les personnes qui sont très bien contrôlées par les traitements, elles ont surtout envie d'oublier leur maladie. Et que dans la mesure où il y a 2/3 des patients qui sont contrôlés, alors encore une fois, même ceux qui sont contrôlés, en fait, en général, ils ont peur de refaire des crises un jour. Mais du coup, comment dire, quand il y a des campagnes grand public, que ce soit le SIDAction ou que ce soit le Téléthon, enfin. Il y a ce côté très émotionnel où, de toute façon, la maladie en question fait peur. Nous, on ne peut pas aller là-dessus parce que, et fort heureusement, il y a des gens qui sont très bien contrôlés par les traitements et on ne va pas accentuer, je parle en termes de communication, là, tous les aspects dangereux et handicapants, et Dieu sait pourtant s'il y en a, ce qui risquerait de faire peur aux gens qui sont bien contrôlés. Donc, il y a cette difficulté-là. Et puis, autre question qu'on nous pose, typiquement, c'est plus facile de lever des fonds quand on a des personnalités qui s'engagent pour l'épilepsie. Or, même quand les gens sont contrôlés, ou même quand les gens sont concernés, pas forcément contrôlés, les personnalités ne veulent pas s'engager sur l'épilepsie. Donc, tous les préjugés dont je vous ai parlé font que c'est beaucoup plus difficile de lever des fonds et de sensibiliser. Et donc, ce qui est un obstacle, c'est ça, en fait. Donc, on est la seule fondation qui finance uniquement l'épilepsie. Et donc, oui, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que quand nous, on a des gros legs, etc., ça nous permet typiquement cette année de. Enfin, l'année passée et cette année, de financer beaucoup plus de projets de recherche que ce qu'on fait d'habitude, mais c'est très fluctuant en fait.
Oui, surtout s'il n'y a pas de communication autour, pas de par les grands médias, c'est vrai que ça complique tout ça. Quels sont les espoirs et les perspectives pour l'avenir en termes de nouveaux traitements ou de thérapies pour l'épilepsie? Est-ce qu'il y a eu des choses de ce côté-là, qui ont un petit peu changé la donne ces dernières années?
Alors, il y a des choses en préparation, effectivement, sur tout ce qui est thérapie génique, etc. Mais ça, pour le coup, moi, je ne m'engagerai pas là-dedans parce que vraiment, je ne connais pas bien. Donc, il faudrait vraiment.
J'imagine.
Non, non, donc, il faudrait vraiment interviewer un des chercheurs spécialisés là-dessus. Il continue à y avoir des nouveaux traitements qui arrivent sur le marché, sachant que chaque nouveau traitement, comme dans tout, est à la fois un espoir, mais en même temps, il faut faire attention aux effets secondaires des traitements. Donc, c'est vraiment des arbitrages à faire entre le patient et le malade. Et je pense qu'il y a pas mal d'espoir, comme je le disais tout à l'heure, axé sur tout ce qui est l'intelligence artificielle. Alors, même si je ne suis pas une grande fanade de l'intelligence artificielle, très loin de là, Et je ne pense pas qu'il faut surposer sur tout ça. Mais en revanche, c'est vrai que le fait, je reviens à cette idée, le fait de pouvoir avoir un cerveau virtuel suffisamment sophistiqué qui permette de mieux comprendre ce qui se passe, parce que c'est quand même, enfin, le cerveau, c'est quand même une sacrée machine, hein, et les crises d'épilepsie sont une sacrée machine, je pense que ça peut faire partie enfin, j'espère en tout cas que ça fera partie des espoirs pour mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi les patients déclenchent cette fiche maladie.
Et est-ce que la Fondation collabore avec d'autres organismes qui auraient les mêmes enjeux, en fait, parce que j'imagine que vous êtes la fondation de la recherche, vous l'avez bien dit, avec un peu tout un panel d'actions. Mais moi, par exemple, ma fille a une pathologie aussi en lien avec l'épilepsie. Je sais qu'il y a une association dédiée à cette pathologie-là spécifique. Est-ce qu'il y a des événements comme ça ou des liens entre vous pour, je sais pas, faire grandir la communauté, faire avancer encore plus la recherche, mobiliser en tout cas des forces communes?
Tout à fait, il y a des collaborations justement sur des projets de recherche, typiquement sur les syndromes rares d'épilepsie, notamment le syndrome Fire North. Il y a une association qui s'appelle Paratonnerre qui nous a confié il y a 2 ans et cette année le fait de lancer un appel à projet de recherche sur cette thématique, sur cette épilepsie spécifique, et que notre conseil scientifique fasse toute cette sélection, cet examen, etc., pour aller trouver les meilleurs projets. On a un partenariat depuis très longtemps maintenant avec une fondation qui est abritée par la Fondation de France, qui s'appelle la Fondation Chamaillard, où, pareil, ils nous délèguent le fait de sélectionner et proposer au financement des projets de recherche innovants sur les épilepsies de l'enfant et de l'adolescent. On a en cours et jusqu'en 2025 une collaboration avec une fondation au Luxembourg qui s'appelle la Fondation Rosborg qui souhaitait là aussi financer des projets cliniques innovants sur l'épilepsie et c'est avec eux qu'on fait ce cofinancement du travail de recherche sur le parcours de soins des enfants. Donc oui, à chaque fois qu'on est sollicité, à chaque fois que c'est possible, enfin, c'est assez rare qu'on dise non à des partenariats. Bon, après, faut que ça soit faisable et pertinent, mais
Bien
en tout
sûr.
cas, pour les recherches, oui. Et sur le volet quotidien, alors on ne les connaît pas toutes, hein, très loin de là, mais quand on sait que telle association est spécialisée dans tel syndrome qui s'occupe, enfin, dans tel syndrome plus spécifique lié à l'épilepsie, évidemment, on renvoie sur cette association, il n'y a aucun problème là-dessus.
C'est super, c'est bon à savoir.
Je suis
Et
preneuse d'ailleurs de l'association, voilà,
oui,
simplement.
je vous communiquerai ça juste après.
Pas de
Et
problème,
du
on
coup,
est là.
pour vous, en l'occurrence, enfin, est-ce que ça a toujours été évident de travailler dans ce genre de structure? Que vous avez été concerné de près ou de loin? Enfin, voilà, quelle a été votre expérience depuis que vous êtes directrice générale de la Fondation?
Alors, il y a plusieurs questions là dans votre question.
C'est fait
Non,
exprès.
non. Oui. Non, non, moi je suis fille de médecin, donc j'ai toujours été sensibilisée à toutes les questions de santé. Je ne crois pas trop au hasard dans la vie, voilà, mais le fait est que c'est quand même un hasard qui a fait que un jour on m'a confié une mission de communication sur une problématique spécifique sur l'épilepsie. Et c'est comme ça que j'ai vraiment été confrontée à cette maladie, que j'ai rencontré des histoires de vie extrêmement touchantes de patients et d'aidants. Des neurologues extrêmement engagés aussi. Et après cette mission, c'est ce qui m'a fait dire, oulala, mon Dieu, voilà, il y a tellement de choses à faire sur cette maladie. Vous avez de nouveaux besoins de moi, appelez-moi. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le poste de directrice générale de la Fondation s'est libéré. Donc ça, c'est sur comment moi je suis arrivée là. Et auparavant, j'avais un parcours à la fois à la fois marqué par tout ce qui est institutionnel et tout ce qui est communication, avec quand même une forte un fil conducteur qui est que voilà, je suis sensibilisée au fait que ce que je fais puisse aider les gens, en fait. Donc voilà. Et est-ce que c'est évident? Donc non, je connaissais pas l'univers des fondations avant, donc c'est vrai que c'est spécifique, l'univers des fondations, associations.
Alors enfin, j'aimerais savoir comment est-ce que les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qui nous écouteront, peuvent soutenir, contribuer aux initiatives de la Fondation pour la recherche sur l'épilepsie.
Alors, il faut nous suivre déjà. On est présent sur tous les réseaux, donc il faut nous suivre. Enfin, vous pouvez aller sur notre site et vous abonner à nos différentes publications pour suivre toutes les opérations que l'on fait, notamment demain, le 26 mars, le Purple Day. Et puis, évidemment, chaque proposition d'action, on a par exemple pas mal de personnes qui nous disent, moi, je vais participer à une course qui peut être au bénéfice d'une cause. Bah, chaque opération comme ça qui peut être faite au bénéfice de la Fondation, évidemment, c'est à la fois de la visibilité pour l'épilepsie, pour la Fondation, et c'est des levées de fonds. Et puis faire des dons, parce que chaque don, même de 10 euros, compte. Et on a besoin, comme je vous le disais, hein, les dons sont la seule chose qui nous permet de fonctionner.
Bien
Si
sûr.
demain, il n'y a plus de fondation. Donc voilà. Donc
Mettre la
merci
main
d'avoir.
à la poche.
Exactement, exactement.
Bon, bah écoutez, Emmanuel, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de temps. Merci de nous avoir éclairci un petit peu sur ce sujet. J'espère que la suite pour la Fondation sera encore plus positive et qu'on avancera encore et encore pour permettre aux épileptiques voilà, d'avoir une vie plus stable et moins difficile pour eux. Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et merci aux auditeurs.